as-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant?
Boum!
Une chanson? Mais pourquoi faire?
Pour la chanter.
Boum! De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on revient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Boum!
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 Boum! Boum! Boum!
Chanson Boom, la chanson en question, entretien avec les acteurs de la chanson contemporaine par Hélène Azéra. Thomas Fersen, merci d'être venu jusqu'à nous.
Bonsoir.
Vous êtes un chanteur particulièrement intéressant. Vous avez fait un début un peu fracassant dans la chanson avec cet album qui s'appelait Le bal des oiseaux. Et puis, on a l'impression que plutôt que de grandes choses justement fracassantes, vous avez grimpé marche par marche.
En ce qui concerne le fracas, moi j'ai rien senti pour ce premier disque. Enfin si, tout était nouveau, quoi, bien sûr. Là, j'ai découvert un monde que je connaissais pas. Mais j'ai toujours eu l'impression que j'étais au point de départ. Ou alors c'est que j'allais pas bien loin. Et donc effectivement, les choses ont grandi naturellement parce que le temps passe et petit à petit, on arrive à joindre les gens qui peuvent s'intéresser à ce qu'on fait. Donc ça, le public s'agrandit comme ça, je pense. C'est assez, en tout cas, c'est humain. Oui.
Alors vous n'avez pas refusé évidemment d'aller dans les télévisions quand on vous le demande ou d'être diffusé sur les radios très très écoutées, mais vous avez privilégié le public et c'est pour ça que c'est tout à fait naturel qu'aujourd'hui sorte une sorte de double album dont un CD est en fait un CD de DVD qui soit le filmage d'un récital et quelques petits bonus avec les coulisses, une tournée, une chose comme ça, et puis l'autre CD, l'enregistrement. Alors je sais pas, c'est le même récital qui est dans le DVD et qui est ensuite en public dans le CD audio.
À peu près la même chose,
c'est le même jour.
C'est le même son, mais ça permet d'emmener la musique avec soi dans sa voiture ou dans sa salle de bain. Et voilà, donc je crois qu'après ils vont sortir séparément, le DVD d'un côté et le live de l'autre. On m'a proposé de faire ça, moi je dis bon, vous savez, l'industrie choisit des supports à notre travail, et pour des raisons qui leur sont certainement propres et raisonnables, quoi, bien sûr. Je trouve que c'est un bel objet, ma foi. Et puis, en ce qui concerne les plus, puisque il faut proposer des plus pour faire grossir ce projet. En même
toujours
temps,
c'est plus de plus.
C'est intéressant aussi parce que ça permet de donner. Moi, j'avais une pénurie d'images quand même. On m'a pas beaucoup vu à la télévision, et donc c'était intéressant de montrer des choses, éventuellement de démystifier un petit peu les coulisses et ce qui se passe après le spectacle. Parce que je suis assez pour une démystification du vedettariat, personnellement. Je trouve que c'est plus sain comme ça.
Vous préférez qu'on parle de création que de vedettariat?
Oui, parce que le vedettariat, c'est un malentendu. C'est assez diabolique, quand même, comme malentendu. Donc, on est obligé, parfois, on voit bien qu'il y a un malentendu entre la personne qui s'adresse à vous comme étant une vedette et vous-même et soi-même, quoi.
Et dans l'autre sens aussi.
Et dans l'autre sens aussi. Donc c'est un malentendu, donc c'est désagréable. Et c'est diabolique, là, parce que c'est le diable qui fait les malentendus.
Je trouve qu'il y a en fait assez peu de. Bon, là, je suis obligé d'employer le cliché de magie, de charisme, de toute cette chose de rituel qu'il peut y avoir quand quelqu'un se présente en scène. Et du coup, c'est un peu aplati dans le filmage. Oui.
Je trouve au départ, effectivement, nous, quand on commence un spectacle, on arrive, on est propre. Quand même, on voit que j'ai le nez un peu gras quand même vers la fin, j'ai l'impression. Mais et puis je pense qu'on est quand même assez on n'est pas trop propre quand même. Ouais.
Alors la chose qui m'intéresse en fait dans cette histoire, c'est pour envoyer une image triviale, une chanson c'est comme pondre un œuf, c'est qu'est-ce que devient cet œuf après, et qu'est-ce que devient une chanson de 99 quand on la chante sur une scène, par exemple à La Cigale en 2003, puisque c'est de 2003 oui. ou de...
Au moment de faire le spectacle, on commence par faire son squelette. Et son squelette, c'est quoi? C'est le répertoire. Qu'est-ce qu'on va chanter? Donc, effectivement, on a d'abord envie de chanter les chansons récentes. Autour de ces chansons récentes, on va essayer d'articuler un spectacle et d'aller puiser dans le répertoire. L'avantage, c'est d'en avoir un. Quand le temps passe et qu'on a fait plusieurs albums, on a plus de choix. Et d'aller choisir des chansons qui vont mettre en valeur les autres et de construire quelque chose de fluide et de cohérent. Voilà ce qui explique qu'il y a certaines chansons qui sont toujours là, comme Louise par exemple. Je pense que c'est la chanson que j'ai le plus chantée sur scène. Et d'autres qui disparaissent. Il y en a d'autres qui, d'un seul coup, aussi à cause de l'instrumentation qui change, deviennent... elles n'ont plus leur place, quoi. Et puis, éventuellement, elles peuvent revenir. La tendance que j'aurais, moi, quand je commence une tournée, quand on commence à construire un spectacle, c'est à en mettre un peu trop. C'est-à-dire, le répertoire est un peu long. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien.
Alors qu'il faut toujours les laisser sur leur fin. C'est la phrase de Trenet.
Je me rends compte aussi, au bout de quelques concerts, on commence à enlever une, deux, puis trois, et d'alléger, et que ça suffit. Le but, quand on fait un spectacle, c'est d'avoir donné une sensation de nonchalance, de peut-être même de désordre. Mais pour arriver à donner cette impression, il faut avoir préparé son travail. Si on vient dans le désordre, montrer du désordre, ça ne donne rien. Il faut avoir d'abord être passé par l'ordre pour créer le désordre. Donc il y en a un gros travail de préparation comme ça des instruments, des arrangements sur scène, effectivement, pour les instruments dont on dispose. Ceci dit, c'est quelque chose que j'ai énormément fait pendant les années 90. Et petit à petit, je m'oriente vers une instrumentation plus simple. Pour changer.
Sur scène, en tout cas.
Sur scène, pour changer, oui. Pour proposer autre chose. Quelque chose peut-être de plus proche du folk. Vous voyez ce que je veux dire?
De et par Thomas Fersen, monsieur.
Sur son chemin, soulève leur galure, le chien lui lâche les mains, sa présence rassure. Voyez cet enfant qui beugle, par lui secouru, et comme il est de l'aveugle, a traversé la rue dans la paix de son jardin. Il cultive ses roses, monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable. Quand le bois de madame, quand il est inconsolable. Quand il a bourrin à la barbe du voisin, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique, je casse le dossier. Sous les églantines, je suis un peu jardinier. Et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop dans le bassin sous les nénuphars. Et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur. La 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 la. C'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable, dans le bois de Boulogne, le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il tremble sans semblable, dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourbon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin, je suis son domestique. Je vais perdre ma place, vous allez pendre monsieur. Hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre. Et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur. Et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.
J'ai un peu ronchonné contre le public. Pourquoi il faut clap, 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 clap? C'est vraiment pas... C'est tout sauf une chanson à danser. Mais bon, cher public, on vous aime.
Ils applaudissent l'assassin, c'est amusant.
Oui, oui, oui. C'est une pure merveille. Alors, je viens de vous dire, hein, pendant que le disque passait, pour moi, j'ai tout de suite pensé, ça n'a rien à voir avec un démarquage, mais à la folle complainte de traîner, à vraiment cette arrivée de surréalisme,
oui,
ce mélange
oui.
de réalisme et de surréalisme.
Mais c'est quelque chose qu'on fait volontiers dans la cour d'école. Vous voyez, par exemple, les gamins, ils se racontent quelque chose, et après, et puis ils augmentent toujours, ils mentent. Et c'est ce principe-là qui a toujours été le mien, de broder et de réinventer la vie, quoi. Ça fait passer la pilule, l'imaginaire, quand même, souvent.
Thomas Fersen, il y a un départ pour ce monsieur?
Il est assez loin de moi, quand même. Hein. Non,
mais comment il s'est imposé comme
le
ça?
Le domestique de l'assassin. Je trouvais que c'était un personnage intéressant. C'était l'abnégation du domestique. Mm-hmm. Pour ce que fait son employeur. Mm-hmm. Il le fait dans l'absurdité totale.
C'est aussi un personnage classique de littérature, Sancho Panza, Sganarelle.
Voilà, oui. Et je trouve aussi intéressant, d'un point de vue général, que quand on écrit des chansons, d'écrire des personnages de se mettre dans la peau de personnages secondaires. Parce qu'en général, le chanteur, depuis, disons, quelques décennies, a plutôt tendance à se mettre en avant comme un héros.
À se prendre pour Napoléon.
Ouais, par exemple. Or, toujours dans ce principe de démystification, je trouve que c'est important que le chanteur sente un peu des pieds. Parce que c'est assez étrange d'ailleurs et récent. Autrefois le métier de faiseur de chansons n'était pas un métier recommandable. Depuis,
Marie-Antoinette a composé quelques mélodies quand même. Et...
Justement. et au contraire, depuis la levée des tarifs et la télévision, c'est devenu autre chose, enfin le contraire. Mm-hmm. Donc, et moi, j'aimerais juste qu'on revienne à une juste mesure. Quoi. Mm-hmm.
Quel était le départ de monsieur encore?
Je vous dis, c'était le domestique de l'assassin.
Mais alors, l'idée, c'est je vais faire une chanson sur le domestique de l'assassin, ou alors est-ce qu'il y a une phrase qui vous arrive, que vous notez?
Le bois de Meudon, des choses comme ça, il étrangle son semblable, etc. Je me souviens plus précisément pour monsieur. Mm-hmm. Il y a des phrases clés effectivement, je me souviens pour d'autres chansons, mais pour monsieur, je me souviens plus précisément. Je savais que c'était le domestique de l'assassin. Et puis aussi, c'est un goût que j'ai pour, dans la littérature, par exemple, dans les livres. Moi, je ne connais le danger que dans les livres que je lis, que je lis le soir avant de me coucher, comme disait Macorlan. Mm-hmm. Et, ce petit frisson qu'on peut avoir à sentir un criminel rôder autour de la maison. Enfin, imaginer plutôt. Voilà, c'est celui qui a, si vous voulez, excité mon imaginaire quand je fais cette chanson.
Le public a tout de suite bien.
Oui, parce qu'il partage ce goût avec moi, je pense.
Mmh. Aussi que la chanson est très réussie. Ça coule, hein?
Oui, bah ça c'est.
Le texte.
Je pense que le. Alors, bon, bah ça c'est.
Vous travaillez beaucoup, justement, ça, le coulant,
la fluidité
du de la langue.
C'est assez jubilatoire pour moi. D'abord, je suis sensible à la musicalité de la langue, donc je peux la retrouver. Et puis j'y suis sensible parce que j'ai été formé par la verve populaire qui m'entourait quand j'étais à l'école communale, ça a commencé comme ça, et qui était à l'origine pour moi dans les chansons paillardes. Il y a une fluidité dans la chanson paillarde, je l'ai souvent dit, et c'est pas pour faire le malin, mais il y a des ellipses, des élisions, un rythme, une mécanique qui est implacable et qui fait le succès de la chanson paillarde auprès des enfants et des ivrognes.
Comme de la chanson comique.
Oui.
C'est les mêmes principes, c'est ça, pour faire rire ou pour causer d'autres émotions.
Ouais. Alors je ne suis pas un théoricien et je ne dirais pas, ni un mathématicien, et je ne chercherai pas des chiffres, mais il y en a un. Il y a un chiffre, disons un chiffre d'or, quoi. C'est assez sommaire, mais ce sens-là m'est venu par le pittoresque de la chanson paillarde. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, moi je ne fais pas de la chanson paillarde, mais on peut retrouver quand même dans ma découpe, le nombre de pieds, on peut retrouver ça.
L'envergure.
Cette filiation.
Oui.
Quand on disait, par exemple, je cite souvent, c'est aussi ce quatrain, ce qui me plaît beaucoup, c'est un dimanche matin avec ma putain, porte de la Villette, je lui mets la main entre les deux seins, direction Caquette. Direction Caquette, c'est une ellipse extraordinaire. Mmh. Ça s'invente pas, enfin, je veux dire, c'est...
Ça, c'est pas de la chanson paillarde, c'est presque de la comptine. C'est de la comptine enfantine.
Oui, oui. Oui, si on veut. Dans mon quartier, c'était assez innocent. Enfin, bon...
Vous voyez, perdu Panloup, plante en ballon, mais il avait le système si long, 400 à 300 mètres dans l'atmosphère, la peau de ses couilles branlait par terre.
C'est extraordinaire.
Là, on est dans la chanson paillarde, strictement.
Oui, mais voyez comme ça sonne.
C'est plus logique que la comptine, la comptine enfantine est plus surréaliste.
Ouais. Mais comme ça sonne et comme ça coule. Mmh. Et tout ça pour faire quelque chose... Il y a une gratuité là-dedans aussi. Enfin bon, je sais pas, c'est quelque chose qui m'enchante.
Moi, je me rappelle une des premières fois où on s'était rencontrés dans d'autres circonstances. C'est Prévert dont vous parliez. Maintenant, vous êtes passé à la chanson paillarde.
Il y a eu un virage.
Ouais.
Non, c'est effectivement, quand j'ai commencé à faire de la chanson en français, c'est un peu Prévert qui m'a remis le pied à l'étrier de la lecture.
Ces poèmes ou les poèmes mis en musique ou ces chansons?
Non, c'était des livres. Mais c'est très simple, c'est que je n'ai jamais étudié, comme je le raconte à l'époque, c'est bien longtemps que je n'ai pas parlé de Prévert. J'avais demandé à ma mère s'il ne restait pas un livre de poche, puisque je me souvenais avoir étudié des poèmes de Prévert à l'école communale, comme tous les petits Français, puisque Prévert est le poète le plus lu, je crois, du monde même.
Heureusement.
Et je lui avais donné, donc, que je lui avais demandé, oui, j'avais appris un poème, c'est Une fourmi de 18 mètres avec un jabot sur la tête. Or, c'est un poème de Desnos. Mais moi, j'avais oublié qui était l'auteur. Donc, j'ai lu Prévert pour retrouver mon poème, Une fourmi de 18 mètres, par aussi une espèce de nostalgie et un retour sur mon enfance que j'avais pas fait et que. Arrivé à 30 ans, d'un seul coup, j'avais le goût de le faire. Quoi. Donc c'est comme ça que j'ai recommencé à lire. Et c'est vrai que c'est en lisant Prévert, mais en cherchant un poème de Desnos, que j'ai recommencé à retrouver ce goût de la lecture qui a fait mon apprentissage, puisque mon éducation, puisque j'ai retrouvé du vocabulaire dans les livres, et surtout retrouvé des choses... et des clés, et des choses que j'avais envie d'exprimer, qui étaient nouées en moi, et qui se sont dénouées grâce aux solutions que j'ai trouvées dans lisant, quoi.
On vous retrouve sur scène, donc, à la Cigale, toujours, Croque, une chanson que vous aviez enregistrée sur un album en 2003, c'est bien ça?
Oui.
Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j'ai eu un enterrement. Et elle a raison, je travaille au cimetière, c'est incontestable. Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table. Faut pas se laisser abattre, j'ai une faim de loup. Moi je mange comme quatre et je bois comme un trou. Puis je retourne au cimetière, travailler mon mieux. Digérer mon pot de bière et mon croque-monsieur. Pendant l'oraison du prêtre. petit creux. Moi je pense à ma côtelette, à mon pantoufle, aux premières couronnes de fleurs. J'ai déjà la dent, c'est mon estomac qui pleure. À chaque enterrement. Comme un côté du cimetière, c'est inhabité. J'ai planté les pommes de terre dans l'intimité. Et dans ma jaquette noire, ventre de service, je donne un coup d'arrosoir et je cours à l'office. Je gratte, je pine et je bêche, quelle heureuse surprise. Quand je trouve un verre pour la pêche, je range ma prise. Dans une boîte en fer blanc, le temps est super. Voilà un coin et pas temps pour déjeuner sur les herbes. En présent que sonne l'heure, l'heure du coupillon. Je pense à mes pommes à peur, à mon courbouillon. Et quand tombent les premières gouttes sur mon haut de phare, c'est mon ventre qui clou-cloute, mon ventre qui grogne. Parfois je croque un oignon, parfois une gousse d'ail, parfois même un champignon. C'est une rituelle, il faut faire avec, ce n'est pas copieux. Car ces oraisons du prêtre, on n'en voit pas la queue. Le vent chasse les nuages, c'est providentiel. Un grand disque de fromage tourne dans le ciel. La femme me monte à la tête, j'avale mon chapeau. Un bouton de ma jaquette et un pauvre mulot. Je me sens pas dans mon assiette, je me vais rendre là. Quand je pense à mes poupiettes, à mon croque-mada, ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure.
Ils comprennent vraiment que c'est une histoire de croque-mort.
Ah oui, je pense que oui. Oui, oui. Mais en fait, je pense que les gens réagissent comme moi. C'est-à-dire, un jour, j'étais dans un café, puisque je déjeune au café tous les jours, et il y avait deux types à côté de moi qui étaient en blazer, qui avaient un langage assez, quand même, d'appréhender la mort. Quoi. Mm-hmm. C'est que même... dans un cimetière, on voit bien que c'est un endroit de vie. Mmh. Lors d'un enterrement,
l'herbe qui pousse,
et puis le comportement des gens, enfin la réaction, mmh, l'émotion, c'est tellement plein de vie, c'est tellement intense de vie.
Alors donc, on est toujours dans le CD audio de cet album, à moitié DVD, à moitié CD audio. Là, ce qui est intéressant, c'est la réponse du public.
Sur cette chanson, par exemple,
oui,
c'est une marche. Alors la marche, c'est encourageant, hein, quand mm-hmm. même, pour le côté festif. Et puis le côté festif avec le côté cérémonial et donc l'histoire de ces enterrements qui sont des rituels. Enfin, c'est le rituel. Tout ça fonctionne effectivement. Ça fait une espèce de mousse, quoi.
Est-ce que vous avez peur des fois que l'espèce d'emballement du public, même un petit peu hystérique, se fasse au détriment de la qualité d'écoute des mots et du langage? Ou est-ce que vous êtes tellement content qu'il soulève et
je pense qu'il y a... alors c'est là où la musique aussi parfois a son mot à dire. C'est-à-dire que le texte c'est bien, mais le texte c'est d'abord parfois aussi que de la musique. Ça, parfois ça redevient que ça. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont mangés. Mais ça, moi, je sais pas, il y a... Ce qui est intéressant avec une chanson, c'est qu'elle puisse avoir plusieurs degrés, quoi, plusieurs oui. registres. Alors on tire un petit peu plus sur celui-là, c'est comme un instrument, quoi, finalement. Un jour, c'est plutôt une écoute attentive sur le texte. Une autre fois, il y a un peu plus de démesure, de folie. Tout ça, c'est intéressant en même temps.
Alors là, on va passer à un titre qui est un petit peu un pied de nez à la programmation radio. Il y a peu de chances que ça passe beaucoup sur les radios, puisque le titre fait 7 minutes. Ah oui. Et c'est aussi intéressant, parce que je crois que la chanson était moins longue quand vous l'avez sortie en album studio. Mais là, c'est pareil.
C'était très long aussi sur l'album studio.
C'était très long aussi.
C'était très long, mais en fait, j'avais envie d'une longue extra musicale. Pourquoi ? Parce que je trouve que dans un album, il faut un petit peu d'air. Parce que, quel que soit le chanteur, au bout d'un moment, je trouve qu'une voix lasse. En fait, ça c'est lié au format que l'industrie a imposé.
On va vous écouter, parle après, c'est peut-être mieux. Donc, Rititi Ratata 2 et par Thomas Fersen.
Il y a une araignée énorme, je lui joue de la musique. Il paraît que ça pique, elle est venue faire son toit dans la robe de bois. Dans mon harmonium, comme elle est mignonne, Rititi, ratata, Rititi, ratata. Dans mon harmonium, il y a une araignée énorme. Je lui joue des requiem, il paraît qu'elle aime, elle est très gentille, mais je suis comme les filles, ça me fout la trouille, paraît que ça chatouille, Rititi, ratata, Rititi, ratata. Dans mon harmonium, il y a une araignée qui lorgne du côté de ma personne. Pareil que ça saucissonne, que ça mange son époux, comme un vulgaire fou, après la marche nuptiale. Pareil que c'est normal, voilà mon délire, ça me fait défaillir. Et quand elle promène son gros abdomen, je me vois la morgue. Alors sur mon orgue, je suis pour la veuve, pareil qu'elle s'émeut. Rititi, ratata. Dans mon harmonia, il y a une araignée énorme, il y a une araignée géante. Est-ce qu'elle est vivante? Elle ne bouge plus comme elle est venue. Moi ça m'horripile. Faudrait qu'elle s'étire, Rititi, ratata, Rititi, ratata. Pareil que ça les berce d'entendre la messe. Trop tard je la somme, que Dieu me pardonne. Avec mon lycée de communion solennelle, ma femme s'impatiente, elle est moins contente. On dirait Simone, on dirait que tu lorgnes du côté de ma personne, comme une araignée énorme, celle qui mange son époux, comme un vulgaire fou, après la marche nuptiale. Ce n'est pas normal, Titi, ratata, Rititi, ratata.
Rititi Ratata, donc à la Cigale, c'est Thomas Fersen communie avec son public. Alors c'est une chanson un peu étrange, c'est à la limite du fantastique,
oui.
À la limite du paillard, parce que si on veut, on peut le...
Oui, oui, c'est vrai, on peut imaginer ça.
On peut l'imaginer de cette façon.
En fait, c'est venu encore une fois d'un quelque chose de réel, c'est-à-dire que pour la tournée précédente, celle de l'album 4, là, avec Monsieur Toussaint, au moment de la résidence à Mâcon, on essayait de constituer des éléments de décor, et on est allé dans une brocante, et on a acheté février 2000, on a acheté un harmonium d'église, et en ouvrant le capot, on a vu une énorme araignée. Et je me dis, ça c'est marrant, ça m'a... L'araignée dans l'harmonium, c'est vrai.
L'araignée dans l'harmonium, oui.
Il y a quelque chose avec la sonorité. Et effectivement, c'est bien un animal à se réfugier dans un harmonium sombre, un peu humide, poussiéreux. Et puis avec... je trouve que ça se marie bien avec le son de l'instrument, etc. Bref. Donc j'ai pris cette note, l'harmonie dans l'harmonium. Et puis j'ai commencé à imaginer un type qui joue de l'harmonium, parce que j'ai lu aussi dans le dictionnaire, dans le littré, alors c'est Buffon qui cite, c'est une citation de Buffon, et qui raconte qu'il est prouvé, qu'il peut pas être révoqué en doute, que l'araignée descendant sur son fil, lorsqu'elle entend de la musique, s'arrête, et une fois que la musique s'interrompt, remonte. Et je me dis, tiens, ça c'est marrant, le type qui joue de l'harmonium, qui a peur des araignées, quand même le type un peu, pour jouer de l'harmonium chez soi, faut déjà être un peu léger, un peu dérangé. Et tout d'un coup, il voit qu'il y a une énorme araignée dans son harmonium, et il s'arrête pas de jouer pour pas qu'elle bouge. Et après, ça part sur son délire, il craint sa femme, c'est un type un peu timoré, il joue de l'harmonium chez lui. Et d'un seul coup, il voit que sa femme le regarde comme une énorme araignée. C'est une espèce de délire. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, ça. Ouais. La chanson, c'est l'auberge espagnole. C'est pour ça que c'est tellement attachant. C'est une bonne chanson. Enfin, une chanson, quand elle est réussie, c'est qu'on se met dedans quand on l'écoute. C'est qu'on se projette. C'est que cette chanson, elle résonne en nous et qu'on apporte tout ce qu'on a dans nos profondeurs et que d'un seul coup, on est délivré de tout ça. C'est ça qui est tellement émouvant dans une chanson.
On va terminer avec Né dans une rose. Peut-être vous pourriez me raconter justement la raison de Né dans une rose.
Né dans une rose, c'est un personnage que je trouve attachant aussi. C'est un jeune homosexuel. Enfin, il est né dans une rose, ça devient ce que ça veut dire, puisque c'est né
dans un chaud.
Et j'aimais d'ailleurs cette façon de faire dire au personnage qu'il est homosexuel. J'aime aussi le fait de chanter une chanson où je dis que je suis homosexuel, même si je ne suis pas homosexuel.
Pas jusqu'ici, en tout cas.
Pas jusqu'ici, en tout cas, on ne sait jamais. Il est né dans une ferme pour un jeune homosexuel à la campagne, c'est pas toujours facile de s'épanouir parce que les mœurs font qu'on s'est un peu honteux éventuellement et surtout on trouve pas d'amour quoi parce que ils partent. Ils quittent leur pays.
L'exode rural.
Ouais.
Des homos.
Ouais.
Pour devenir postier à Paris.
Ils vont en ville et il devient coiffeur.
Là, l'homosexuel est en fait une sorte de projection de votre hypersensibilité. C'est un petit peu ça.
Oui, pourquoi pas, oui. Non, puis je suis sensible aussi au fait que ce personnage quitte sa campagne, puisque mon père, pas parce qu'il était homosexuel, mais mes parents ont quitté leur région pour s'installer à Paris, comme beaucoup de provinciaux, par nécessité économique, justement. Et donc, dans mon histoire personnelle, il y a un régionalisme aussi, il y a ce déracinement.
On va vous écouter. Donc, en public à la Cigale, Né dans une rose.
Je suis né dans une rose, et pour les besoins de la cause, je fais. J'ai 18 ans ferme, adieu j'ai quitté la ferme. voilà cette envie de fou, celle de leur venger le cou.
Le coffret DVD de Thomas Fersen, La cigale des grands jours, est disponible chez Tôt ou Tard. C'était Chanson Boom, Manumérique, Patrick Molinier, Hélène Azera.
Je n'aime pas les idées des philosophes, les grands philosophes, comprenez-vous? Mais quand un sage parle, il peut dire tout ce que Immanuel Kant dit dans un gros volume, n'est-ce pas? Il peut dire dans trois lignes.
J'étais dans une gare, un train est passé par là, il allait vers l'est. Fiche mon camp, le mieux possible, le plus loin possible.
Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi.
Écoutez, vous êtes France Culture.
Quand on écoute de France Culture.
Il habite dans le faubourg de Tokyo, une maison blanche de style espagnol.
Avec la radio, surtout la nuit, on peut encore faire rêver.
France Culture.